Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. L'autre va mourir. C'est à toi de choisir.
Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission numéro 10 des Radio X-Files dans la formule du vendredi soir. Et je dis nous également, puisque M. Christian Page est parmi nous. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Camille.
J'espère que tu as passé une très belle semaine. Semaine de nouveautés pour toi. Et j'ai ça aussi en studio.
Oui.
Et j'ai une odeur qui me... Écoute, je pourrais pas décrire mieux ça que dire que c'est réconfortant. L'odeur de papier neuf, d'un bouquin... fraîchement sorti de la presse.
Écoute, t'as tout à fait raison. Moi aussi, j'ai une énorme collection de livres à la maison, mais en même temps, au-delà du contenu du livre, je suis un amoureux des livres. Moi, j'ai rien contre les gens qui vont lire des livres sur des tablettes, mais moi je suis incapable de faire ça. J'aime l'objet, j'aime le livre.
Même chose ici.
Fait que donc quand tu achètes un livre en librairie, l'odeur du papier, bon, qui plus est quand le livre est comme dans le cas de ce livre-là, moi quand j'ai reçu mes premiers exemplaires, parce que bon, pour situer les auditeurs, tu parles de mon tout dernier livre que je t'ai fait envoyer en service de presse, Les fraudes du paranormal, dont on parlera peut-être la semaine prochaine.
Oui,
puis on
parce
va
que...
même en... Oui, j'allais dire, on va en faire tirer un exemplaire pour les auditeurs. Et là, je t'ai interrompu. Qu'allais-tu dire, ma belle
dire
Camille?
Que j'allais me mettre en mode lecture en fin de semaine et au courant de la semaine prochaine pour justement amorcer ce livre qui est vraiment intéressant. Et ça va être dans notre thématique justement de la semaine prochaine qui concerne les fraudes du paranormal et les fraudes historiques, carrément.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui touchent le domaine de l'histoire. Ce qui me... Parce que, bon, quand on parle de Christian Page, les gens pensent immédiatement, ah oui, ça, c'est le journaliste qui s'intéresse au paranormal. Mais on oublie que dans mon cursus, j'ai également eu des cours d'histoire et je suis un grand passionné d'histoire. Et ceux qui nous écoutent, qui ont eu la chance de lire mon livre sur les reliques saintes, bien évidemment, ça me permettait de combiner à la fois mes connaissances en histoire et versus le paranormal. Parce que quelque part, dans cette quête de reliques sainte, on était à la recherche d'objets fabuleux qui ont marqué l'histoire du judaïsme et du christianisme. Et c'était un peu dans la même foulée que les Indiana Jones. Donc, on prenait pas position sur la religion elle-même, mais plutôt sur l'aspect historique de certains de ces objets tout à fait fabuleux qui ont fait rêver, hein, le linceul de Turin,
oui,
l'arche d'alliance, l'arche de Noé, la sainte lance. Bon, c'était un peu ces objets sur lesquels on était sur la piste. Et ça me permettait donc de replacer ces éléments dans leur contexte à la fois culturel et historique, archéologique également, mais sans jamais prendre position pour au niveau de la foi. Donc, si les gens tombent sur ce livre-là, méfiez-vous. Là, c'est pas parce que ça s'intitule « À la recherche des reliques saintes » que c'est un livre à caractère religieux. C'est un livre à caractère historique. Et là, cette fois, dans les fraudes du paranormal, tu as tout à fait raison, hein. C'est 20 histoires, 20 fraudes qui ont marqué l'histoire du paranormal. Mais dans bien des cas, certaines de ces fraudes-là sont des fraudes qui sont également à l'histoire. Donc, on a falsifié des choses de l'histoire pour essayer de nous faire accroire un passé glorieux, une super civilisation, des extraterrestres, peu importe. Et bien sûr, ça me permettait pour moi, dans ce cadre-là, de combiner à la fois mon intérêt pour le paranormal, l'occulte, le mystérieux, et aussi pour l'histoire. Et quand on parle de ces histoires-là, ben je tiens à souligner que ce sont des histoires sur lesquelles j'ai enquêté personnellement. Je me suis rendu dans les pays où ça s'est produit. J'ai rencontré, dans certains cas, les faussaires. J'ai rencontré également les gens qui ont été victimes de ces fraudes-là. Dans certains cas, il y a eu des enquêtes policières, donc j'ai rencontré les policiers. Principalement, je pense notamment à une histoire en Espagne où j'avais rencontré les gendarmes espagnols qui enquêtaient sur l'affaire. Donc, ces 20 histoires paranormales, dont les scénarios, la façon dont elles ont été mises en place, la façon dont elles ont été véhiculées dans les médias, et dans certains cas, elles continuent d'être véhiculées dans les médias. Ce sont des scénarios parfois dignes d'Hollywood. Et donc, la semaine prochaine, on aura la chance d'en parler plus abondamment.
Oui, et j'adore la constitution du livre parce qu'il y a un grand support visuel d'archives diverses. Quand c'est écrit, je pose une seule question ce soir pour me garder le reste pour la semaine prochaine. Quand c'est écrit collection privée, est-ce que c'est tiré de tes propres archives?
Oui, absolument. Okay. Donc, j'ai rencontré des gens, puis là, ces gens-là me disaient, ben gars, ça, c'est des photos que j'ai obtenues des témoins, etc. Donc, d'accord, on me donne l'autorisation de reproduire la photo. Ça vient donc des collections privées de ces gens-là. Et effectivement, on a voulu mettre beaucoup d'emphase sur l'image parce que on est dans un monde très visuel. Donc, on aime bien, comme disait si bien Yvon Deschamps, on veut pas être le savoir, on veut le voir.
C'est vrai.
Donc, on a mis beaucoup de photographies dans l'ouvrage. C'est un ouvrage... Évidemment, c'est l'auteur qui parle, donc les auteurs ont toujours un peu le même discours. Le dernier ouvrage publié, c'est le bébé, donc c'est celui souvent dont on est le plus fier. Et c'est vrai que dans ce cas-là, je suis particulièrement fier du travail qui a été réalisé, la façon dont les différents sujets sont amenés. Et je pense que c'était une bonne façon de remettre un peu les pendules à l'heure. En ce sens que les phénomènes de fraude... Puis là, ben, je veux pas donner tout le contenu de ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais c'est vrai que les fraudes, c'est souvent un peu comme des parasites qui viennent gangréner un sujet. Hein, et c'est ça qui est un peu triste, c'est que ça jette énormément de discrédit. Ce livre-là est pas là pour dire on n'est pas visité par les extraterrestres, où il y a pas d'ovnis, où il y a pas de fantômes, il y a pas de ci, où il y a pas de ça, où il y a pas d'énigmes de l'histoire, absolument pas. Mais malheureusement, dans le domaine des ovnis, dans le domaine des fantômes, dans le domaine de la cryptozoologie, donc l'étude de ces animaux méconnus ou inconnus de la science, il y a malheureusement des faussaires qui vont profiter que des gens croient ces sujets-là, ou que le sujet soit tout simplement dynamique, et vont inventer des fraudes de bout en blanc, là. Et malheureusement, les gens sont victimes de ça. Donc, l'idée, c'est de dire, attention, c'est bien possible qu'il y ait des ovnis, c'est bien possible qu'on soit visité par des extraterrestres ou que la vie existe après la mort, mais telle ou telle histoire, elle ne l'est pas. Et ça a été vérifié, c'est des faits confirmés. C'est amusant parce que je trouvais important de le dire et c'est important aussi de l'écrire parce que dans l'univers du paranormal, si on dit de façon populaire ou générale qu'il y a une mémoire collective, ben dans l'univers du paranormal, puis c'est pas la première fois que j'utilise cette paraphrase, mais c'est vrai que dans l'univers du paranormal, on a souvent un oubli collectif. Donc une histoire qui a été déboulonnée aujourd'hui, on laisse retomber la poussière et dans 2 ou 3 ans, on va la voir réapparaître à nouveau sur les médias sociaux, puis elle va être repartie pour un tour de piste. Donc là, au moins, il y a un livre qui existe. Et les gens, s'ils entendent parler de ces histoires-là, ils pourront avoir des documents auxquels ils pourront se référer. Dire, attention, minute, là, on a des documents, telle recherche a été menée, puis voici. Donc, ça permettait un peu de remettre un peu les pendules à l'heure. Et puis, j'avoue aussi que j'étais un peu tanné d'entendre toujours les mêmes histoires de fraude qui nous revenaient là, comme ça à société en disant, cette histoire-là, on sait qui se trouve derrière, on sait comment ça a été monté, c'est une fraude, c'est une arnaque. Et pourtant, il y a des gens qui vont continuer de défendre ces arnaques. Là, bec et ongle. Hein. Je pense notamment à un chapitre sur la zone 51 et Bob Lazar,
ouais.
Robert Lazar. Ben, je sais que Robert Lazar, ou Bob Lazar, si tu préfères, a énormément de supporters et des gens qui sont prêts à se faire harakiri pour dire « Ben non, Bob Lazar dit la vérité. » Mais non, Bob Lazar, il ment depuis le début et voici pourquoi il ment. Donc, on a beau essayer de réécrire l'histoire ou de la réinventer, à moins d'être d'une naïveté tout à fait invraisemblable. Quand on met bout à bout les nombreux mensonges de Robert Lazar ou Bob Lazar, on se rend bien compte que ce type-là ment comme il respire. Hein. C'est un mythomane. Et j'explique pourquoi tout ça est de la fraude et de l'arnaque. Mais je sais, il y a des gens qui vont continuer à dire « Ah, ben, c'est pas vrai, Bob Lazar dit vrai. » Tu sais, Platon disait « Il n'y a pas personne qui est plus détesté que celui qui dit la vérité.
Bon. » Oui, puis pour les sceptiques, ben, c'est disponible, vous avez des archives, vous avez des explications. Des fois, c'est fun aussi de voir de l'autre côté de notre propre opinion. Hein.
Puis ces ouvrages-là, écoute, je vais te faire une confidence. Hein. Quand j'ai commencé à écrire pour cet éditeur-là, là, j'ai changé d'éditeur, puis je tiens à préciser que les premiers livres que j'ai écrits, là, ben, les livres que j'ai écrits il y a quelques années, L'enquêteur du paranormal et tout le reste, qui ont été publiés chez Publicistar. Aujourd'hui, j'ai changé d'éditeur, mais c'est pas à cause d'une friction avec l'autre, parce que j'ai entendu des rumeurs. Okay. Non, il n'y a pas eu de friction avec l'autre éditeur. C'est simplement qu'on m'a fait une offre qui était plus alléchante chez un autre éditeur pour les pourcentages et tout le reste. Puis, bon, bref, je me sentais plus à l'aise de travailler dans ce cadre-là chez Guy Saint-Jean que chez Librex, mais il n'y a absolument aucune animosité entre moi et mon ancien éditeur. Mais tout ça pour te dire que quand j'ai rejoint Guy Saint-Jean, éditeur, on me dit, bon, ben, ça serait intéressant. J'ai commencé mon premier ouvrage, je crois que à ce moment-là, c'était Les Tueurs de l'Occulte, qui a été le premier livre chez Guy Saint-Jean. Et on m'avait demandé on me dit, ah oui, mais tu sais, on s'adresse à un public large, puis bon, il y avait déjà une résistance sur l'idée des références, tu sais. Et moi, je suis un individu, comme je viens du milieu universitaire, et les gens qui viennent du milieu universitaire, on sait à quel point la référence, elle est importante.
Oui.
Qui a dit ça et d'où vient l'information? Et je me suis pas battu, là, entendons-nous, mais j'ai dû insister pour dire non, moi je veux pas écrire simplement le texte, je veux que chaque phrase ou chaque paragraphe, il y ait une note de référence qui renvoie le lecteur à la source originale de l'information. Si c'est un rapport de police, je veux qu'on le cite, si c'est un document d'archive, je veux que ce soit cité. J'ai toujours été obsédé par ça, puis on en a parlé souvent, hein, toi et moi, hein, on parle par exemple, j'ai obtenu récemment les dossiers sur Roma Santa, j'ai obtenu les dossiers sur Kakusi Kuchin, là, le Swift Runner, le cannibale qui avait mangé sa famille. Et pourquoi je fais ça? Parce que je trouve important de retourner aux sources originales. Et ces sources-là, ben, les gens les retrouvent en référence du livre s'ils ont besoin d'aller vérifier une information. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, dans ce cas-là, tous les sujets qui sont abordés, non seulement ça fait partie d'investigations qui ont été des investigations personnelles, mais je renvoie également à des sources d'informations crédibles, des documents qui ont été vérifiés, des documents d'archives auxquels les gens pourront se référer. Donc, à ce moment-là, je pense que la table est mise pour des discussions qui soient tout à fait constructives. Parce que, tu sais, tu comprends, moi, j'ai pas de problème si quelqu'un me dit, bah, moi, telle ou telle histoire, je crois que c'est vrai parce qu'il y a telle ou telle information que t'as pas rapportée dans ton ouvrage. Ben, écoute, c'est bien possible, je veux dire, on est des êtres humains, là. Mais s'il y a de l'information que je n'ai pas, il faut l'apporter, hein. Puis moi, j'ai pas de problème. Si quelqu'un me dit, ben, voici une preuve que cette histoire-là était vraie, puis tu l'as dénoncée comme étant une fraude. Ben, si cette information-là, elle existe, je n'ai aucune difficulté demain matin à faire un mea culpa, là, puis dire, ben, je me suis trompé, il y avait une information que j'avais pas en main. Mais, on est d'accord que dire à quelqu'un, va donc chier, c'est pas un argument fanfare.
C'est pas constructif, en effet.
Non, c'est ça, c'est pas constructif. Donc, j'espère que cet ouvrage-là va plaire aux gens. En tout cas, moi, ça m'a plu de l'écrire, et j'espère que les gens trouveront autant de plaisir à le lire. Mais ça, on pourra longuement s'en reparler la semaine prochaine. Mais tu le dis, grosse semaine, d'abord la sortie du livre.
Ben oui!
Et ensuite de ça, bien sûr, il y a l'Halloween qui approche à grands pas, et ça, pour moi, chaque année, c'est un peu toujours la même chose. Les médias veulent avoir leurs histoires de fantômes, on veut que je leur raconte des trucs, d'où ça vient telle ou telle histoire. Bon, et donc, à ce moment-là, quand arrive la période de l'Halloween, je suis toujours excessivement occupé. Que ça vient s'ajouter à mon agenda qui est déjà
ces temps-ci
passablement surchargé, ouais.
Et on a fêté cette semaine, en lien avec la bande-annonce qu'on a entendue en début d'émission, on arrive au 50e anniversaire du film Exorciste, l'original de 1973. Mais depuis le 6 octobre, on a l'occasion d'avoir, est-ce que c'est une suite ou un reboot de ce film-là?
En fait, Ce que le nouveau réalisateur, David Gordon Green, qu'on connaît, c'est un jeune réalisateur, assez nouvellement arrivé dans les milieux, là, au niveau du cinéma d'horreur, c'est lui un peu qui a repris la franchise des films Halloween, hein, qui avait beaucoup marqué dans les années, fin des années 70, début des années 80, qui mettait en vedette Jamie Lee Curtis. Et d'ailleurs, il a ressorti Jamie Lee Curtis, hein, oui. dans les derniers films, on voit une Jamie Lee Curtis vieillissante, mais qui reprend son combat contre Michael Myers.
C'est ça.
Mais dans les derniers films, donc les deux ou trois derniers films, c'est justement David Gordon Green qui a repris cette saga et qui a ressuscité, qui fait sortir à nouveau de son asile psychiatrique où il était enfermé depuis presque 50 ans maintenant, Michael Myers, l'increvable Michael Myers. Donc, il est surtout connu pour ces films-là. Et là, il a décidé de s'attaquer à un gros morceau qui était L'Exorciste. Tu l'as mentionné, puis durant l'émission, on aura l'occasion de revenir, de faire des bonds dans le temps, hein, entre aujourd'hui et les années 70, parce qu'il y a plusieurs choses en parallèle dont on doit parler. Puis je suis très content qu'on puisse prendre l'heure qui vient pour justement faire ces comparaisons. Pas que le film est mauvais, même si le film j'ai détesté. Je sais pas si toi, tu as eu la chance de le voir.
Non, même pas!
Moi, j'ai détesté, mais j'ai détesté pour plusieurs raisons, puis je vais expliquer pourquoi je l'ai détesté, mais somme toute, ce n'est pas un mauvais film. Hein, faut bien s'en et j'ai l'impression qu'il y a plein d'auditeurs qui sont avec nous ce soir, et en particulier les jeunes auditeurs vont sûrement se régaler en voyant ce film-là. C'est un assez bon film d'horreur, mais évidemment, les vieux dinosaures comme moi, qui se rappellent les années 70, qui se rappellent la sortie du film L'Exorciste, il y a tout un contexte qui est très différent.
Et un peu comme on a fait avec Carrie, on l'a repris dans les dernières années, mais c'est pas l'original. Puis il y en a beaucoup qui disent « mais c'est pas celui de Dans mon temps », puis j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça là-dedans, mais je te laisse aller sur ta critique.
Ouais, mais ici, c'est beaucoup plus le problème est beaucoup plus profond. Dans le cas de Carrie, on a simplement repris la nouvelle de Stephen King, puis on en a refait un remake. Et évidemment, les gens qui avaient vu l'original, parce que le cinéma est différent aussi. Hein? Le cinéma d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il était dans les années 70. Dans les années 70, puis je comprends les jeunes qui sont pas habitués à ce genre de cinéma. Aujourd'hui, on fait des scénarios qui le développement est assez rapide, on met beaucoup d'effets spéciaux. Alors que dans les années 70, la façon de faire était beaucoup plus lente. Il y avait une progression, on allait crescendo dans le scénario. Aujourd'hui, on fait ça beaucoup plus vite. Et c'est certain que des jeunes, je pense à des jeunes dans la vingtaine qui écoutent des films d'horreur des années 70, ben à un moment donné, ils doivent un peu taper du pied en disant, ben mon Dieu, c'est donc ben lent comme film, tu sais. Puis on avait la même réaction. Moi-même, je me rappelle dans les années 70 ou 80, quand je regardais des films d'horreur qui avaient marqué leur temps, hein, des films qui étaient sortis dans les années 50, par exemple, puis on regardait ça, on se disait, mais mon Dieu, le développement est donc bien lent, puis bon, mais le temps change, les téléspectateurs changent également, notre goût du cinéma change, il y a une évolution, hein, mais en même temps, il y a quand même des éléments qu'on doit retenir. Dans le cas présent, le nouveau scénariste, David Gordon Green, a décidé de ne pas refaire une suite. Contrairement au film Carrie que tu as mentionné, Carrie était réellement un remake de l'original. Et l'original, ben, c'était un peu difficile à battre, hein, parce que de mémoire, je pense que c'était Coppola qui avait fait ça ou quelque chose comme ça. Et donc, un grand réalisateur. Pas sûr si c'était Coppola, mais
je vais
en commençant.
Pour...
OK, tu peux vérifier ça, je veux pas dire une bêtise là, mais c'était un grand réalisateur qui avait réalisé le film et ça mettait en vedette Sissy Spacek qui était tout jeune à l'époque, qui incarnait le rôle de Carrie et basé bien sûr sur cette nouvelle de Stephen King. Quand on a refait le film,
je vois Brian De Palma.
Oui, c'est ça, donc Brian De Palma, tu as tout à fait raison. Donc c'est dans les grands réalisateurs des années 70, on avait De Palma, et c'est lui qui a fait ce film là. Et dans les années 70, ben évidemment, le temps était, il y avait un développement qui était progressif, puis les effets allaient crescendo, les effets spéciaux allaient crescendo, alors qu'aujourd'hui, on est allé beaucoup plus rapidement et le remake est assez désastreux. Dans le cas de L'Exorciste, David Gordon Green n'a pas eu la prétention de dire « je vais refaire L'Exorciste ». On peut pas refaire L'Exorciste comme on pourrait pas refaire Citizen Kane, tu comprends? Ou on pourrait pas refaire Le Parrain. Hein? Je veux dire, ce sont des films, des grands classiques de l'histoire du cinéma, et s'attaquer à ça, ben, ce serait une stupidité. Alors, ce que Gordon Green a voulu faire, c'est de dire, OK, il y a eu à l'époque, dans les années 70, lorsque le film L'Exorciste est sorti en salle, il y a eu plusieurs suites, qui étaient d'ailleurs pas très réussies. On en a fait 3 ou 4 suites au cours des années, puis c'était pas très réussi. Évidemment, parce que on essayait de redonner vie à des événements qui étaient, somme toute, terminé, hein, dans l'affaire de l'exorciste. Quand on regarde le film de 73, il n'y a pas vraiment de suite possible. T'sais, je veux dire, le démon a été chassé, il a pris possession de Carras, Carras s'est jeté par la fenêtre, puis il est mort, merci, bonsoir.
Ouais,
on a comme, tu sais, l'affaire est terminée, là, tu sais, je veux dire, à moins de le ressusciter, là, on réussit à faire ça dans Halloween ou dans Friday the 13th, là, tu sais, on réussit à sortir Michael Myers ou Jason Voorhees, là, tu sais, dans les Friday the 13th. Mais bon, le diable, veut dire, à un moment donné, c'est le diable, puis on peut pas, à moins de refaire un autre exorciste, c'est toujours un peu le même scénario qui revient. Donc, comment arriver à créer une suite qui soit à la fois divertissante, constructive, et qui s'inscrive assez bien dans ce qui a déjà été fait? Donc, on avait fait à l'époque quelques suites qui ont pas très bien marché et qui ne rendaient pas justice à l'original. Donc, dans le cas de Green, lui, ce qu'il décide de faire, c'est de dire, ben voilà, oublions les suites qui ont été faites, revenons à l'original, celui de 73, et imaginons une suite. Donc, c'est un peu sa prémisse. Donc, l'exorcisme a eu lieu à l'époque, en 1973. On a suivi, à l'époque, les gens se rappellent, on a suivi les déboires de la jeune Regan McNeil, qui était possédée par un démon. Et on a tendance à croire qu'elle était possédée par le diable ou par Satan, mais en réalité, elle était possédée par un démon qui s'appelle Pazuzu, hein, qui est un démon de la Mésopotamie. Et l'idée derrière ça, c'était de montrer que le mal, c'est un ennemi qui est très ancien, il n'a pas attendu le judaïsme, il n'a pas attendu le christianisme. Il est là depuis l'aube des temps. Donc, les premières civilisations, Sumer et la Mésopotamie, avaient déjà leurs démons. D'ailleurs, c'est assez amusant, hein, sur le plan historique, dans les premiers écrits du judaïsme, donc la religion originale, le diable n'existe pas. Hein. Dieu, il est bon et méchant en même temps. Hein. C'est lui qui décide de... aujourd'hui, c'est beau, j'ai créé le monde en 6 jours, je me suis reposé le 7e, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, mais c'est lui aussi qui, à un moment donné, lorsqu'il voit que les hommes se sont adonnés à la perversion, ben, il va détruire les villes de Sodome et Gomorre où il va envoyer un déluge. Donc, il est à la fois le bon et le mauvais, hein, celui qui tend la fleur et celui qui tient l'épée. Donc, c'est un peu l'image que l'on a. Et à cette époque, au moment où le judaïsme est naissant, ce qui nous situe à peu près le 1500 ans avant Jésus-Christ, là, lorsque les premiers récits vont commencer à se raconter de manière par une tradition orale. Donc on est à peu près 1500, 2000 ans avant Jésus-Christ, grosso modo. Et à ce moment-là, il faut se rappeler que les peuples hébraïques vont côtoyer, hein, ils vont être à la fois conquis, ils vont être souvent en guerre contre des nations autour, et c'est un peu malheureusement ce que l'on retrouve dans l'actualité du moment, hein, avec cette problématique avec la bande de Gaza, les Palestiniens, et Israël, hein, c'est malheureusement une histoire qui n'est pas nouvelle, elle a un long historique. Donc à cette époque, donc il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, 1500, 2000 ans avant Jésus-Christ, ces peuples-là de ce qui était à l'époque ce pays, cette Judée, vont côtoyer les Babyloniens, vont côtoyer Sumer et vont côtoyer les Égyptiens, et ils vont puiser à ces panthéons de dieux étrangers des éléments qu'ils vont associer à leur propre panthéon. Et c'est comme ça que éventuellement le diable va faire son apparition dans le judaïsme et plus tardivement dans le christianisme. C'est un méchant, un vilain qu'on a emprunté ailleurs. Et ce ailleurs, c'est les grandes civilisations qui ont marqué l'histoire de la Mésopotamie. Et parmi eux, il y avait ce démon à tête de chien, avec des ailes et à tête de chien, qui s'appelait Pazuzu. Et c'est l'idée derrière, dans le roman à la fois de William Peter Blatty, l'original, le roman de 1972, qui a servi à la trame pour le film de 73, ben c'est Pazuzu qui est le démon, hein, c'est pas le diable, c'est Pazuzu, et il y a une scène tout à fait remarquable. Alors, et là on reconnaît le génie de William Friedkin. À un moment donné, on a la jeune Regan McNeil possédée par le diable. Elle est sur son lit, en position de chevauchement, donc une position qui a une forte connotation sexuelle, et à un moment donné, elle lève la main, on voit la main qui se détend, on a presque l'impression qu'elle vit un orgasme, et derrière elle, dans une espèce de brume, on voit apparaître la silhouette du dieu Pazuzu, là, du démon Pazuzu. Mmh. C'est une scène qui est tout à fait, franchement, là, remarquable. C'est du 10 sur 10, là. On peut pas dire autre chose que ça. Donc, dans le, il y avait tout ce contexte. Là qu'on arrive avec ce film, donc celui de Le Nouveau Exorcisme, qui s'intitule en anglais c'est The Exorcist Believer, en français c'est en France c'est Exorciste Dévotion, alors que au Québec c'était Le Croyant, hein, Exorciste Le Croyant. Pourquoi est-ce qu'on a au Québec un titre différent de la francophonie? Je l'ignore, quel est l'objectif derrière ça, mais bon, bref. Et dans ce film, on nous place le contexte. Donc 50 ans plus tôt, il y a eu cet exorcisme avec la jeune Regan McNeil, possédée par ce démon Pazuzu. Il y a eu toute l'historicité de ce rituel. Et là, on est 50 ans plus tard. Et 50 ans plus tard, c'est assez intéressant parce que on a ressorti Hélène Bernstein, qui jouait dans le premier, en l'exorciste. Elle jouait la mère de Regan McNeil. Elle jouait Chris McNeil. Elle était donc la mère, vedette de cinéma, là, dans le film. Si pour ceux qui ont encore en mémoire l'original de 73, elle était une actrice de cinéma dans ce film-là. Et là, donc, elle ressort de l'ombre. Il y a deux familles qui se retrouvent avec deux fillettes, deux pré-adolescentes, qui après une sortie sont allées dans les bois et se sont adonnées à une espèce de séance de spiritisme. Elles ont disparu pendant 72 heures et elles réapparaissent. Ce sont deux copines de classe, là, on s'entend bien. C'est pas deux étrangères, ce sont deux copines de classe. Elles sortent pour aller faire une séance de spiritisme en forêt et lorsqu'elles reviennent, elles ont des comportements tout à fait atypiques et là, éventuellement, on dit peut-être qu'on a toute la batterie de tests médicaux, psychiatriques, tout ça, et on arrive à la conclusion qu'elles sont peut-être possédées par le démon. Et là, des gens disent, ben voilà, il y a cette dame qui, il y a 50 ans, sa fille était possédée par le diable, et là, c'est là qu'intervient, on voit réapparaître Hélène Bernstein, et dans cette nouvelle mouture, on apprend qu'après l'exorcisme de sa fille, elle a écrit un livre dans lequel elle aurait raconté son histoire, ce qui l'a mis en froid avec sa propre fille, qu'elle n'a pas revue depuis 50 ans.
OK.
Donc, sa fille qui est incarnée par Linda Blair à l'époque, on se rappelle. Donc, elle dit, je ne l'ai pas revue depuis 50 ans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et d'ailleurs, ça va jouer, il y aura un élément là-dedans, parce qu'à un moment donné, dans le diable, lorsqu'elle rencontre ces deux préadolescentes qui sont possédées, l'une d'entre elles s'adresse à elle d'une voix gutturale, puis lui dit, que fais-tu ici? Tu cherches Regan? Ben, Regan est avec nous en enfer. Laissant présager que depuis la Regan est peut-être décédée. Bon, je veux pas vendre le punch, là, mais bon, il y a quand même ces éléments-là. Donc, on est directement dans une suite qui s'inscrit 50 ans après l'original. Mais malheureusement, le film fonctionne pas bien.
OK.
Puis, il y a plusieurs éléments pourquoi ça fonctionne pas bien. Et là, on va aller dans la critique, si tu veux. Bon, d'abord, il faut quand même se rappeler que ce film-là, hein, il est conçu pour plaire un public actuel. Je te dirais, je veux pas paraître mesquin là, mais je dirais que c'est un peu un film d'ado, hein, sans être mesquin. Okay. Là, je veux dire, mais tu sais, on le sait. Bon, on présente, il y a un développement qui est assez rapide, et c'est des choses qu'on a vues maintenant mille fois. C'est-à-dire qu'on, tu sais, ces espèces de maquillage un peu boursouflé, les yeux qui tournent à l'envers, le quoi guttural, tu sais, quand les gens parlent. En 1973, là, on n'avait jamais vu ça. Ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, on a vu ça mille fois. Tu sais, à peu près tous les films de possession diabolique réutilisent exactement la même recette. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, déjà là, c'est un peu décevant. Le développement, il est... La première partie du film, c'est dommage, parce que la première partie du film, je dois avouer que j'ai bien aimé. Lorsque les deux adolescentes sortent, elles vont en forêt pour faire ce fameux rituel de spiritisme, elles disparaissent. Cette première partie où on cherche les filles et il y a tout un climat qui se construit, on sentait là-dedans qu'on retrouvait minimalement l'impression qu'on avait quand on avait regardé le premier Exorciste. Hein, donc une situation, parce que dans le premier aussi, Regan McNeil ne devient pas possédée du démon ou de Pazuzu, elle ne devient pas d'un seul coup. Il y a une progression. Au départ, elle commence à jouer Ouija, d'ailleurs, faut le dire, hein, en 1973. C'est malheureusement le film Exorciste qui a donné une mauvaise presse au Ouija. Avant ça, ouais. Le Ouija était pas connu comme un mauvais jouet, mais après l'Exorciste, on a ouvert une porte. C'est un peu ce qu'on nous dit là-dedans. Donc, elle commence par jouer Ouija, et là, éventuellement, le jeu commence à bouger tout seul, puis là, elle commence à avoir des comportements un peu erratiques, et éventuellement, le démon, les forces obscures se mettre en place. Dans le film présent, la première partie, on a l'impression de voir un peu ce crescendo qui se produit, et là, tout d'un coup, on arrive, bon, les deux fillettes sont retrouvées, puis elles sont possédées du démon, et là, ben, y a plein de choses qui fonctionnent pas. D'abord, dans le film original, rappelle-toi, ben, je sais pas, est-ce que tu as vu l'original de 73?
Oui.
Bon, dans l'original de 73, il y a plusieurs éléments. C'est notre lien par rapport à cette époque-là qui fait que le film ne marche pas aujourd'hui. En tout cas, pour moi, puis j'imagine pour toute une génération de téléspectateurs comme moi, ce film-là ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, bon, dans un premier temps, notre relation avec le diable n'est plus le même. Notre relation avec le religieux n'est plus le même. En 1973, si on regarde essentiellement au Canada, près de 80% de la population canadienne disait croire en Dieu. Aujourd'hui, à l'échelle du Canada, on est tombé à 62%. Au Québec, on est même en dessous de 60% de gens qui continuent de croire en Dieu. Donc, notre relation avec le religieux n'est plus la même qu'il l'était à l'époque. À l'époque également, puis on faut quand même dire que le film, ou originalement, c'est un film américain, donc la société américaine est encore plus croyante. Hein? On le voit d'ailleurs dans les discours politiques. Hein? Joe Biden, peu importe le président, dès qu'on est président, que ce soit Donald Trump ou ses prédécesseurs, Barack Obama, ouais. Dans les discours, hein, on pourrait pas imaginer un politicien qui à toutes les phrases c'est Dieu, puis on est du côté de Dieu, puis Dieu est avec nous, puis in God we trust. On se dirait ben là, écoute, il est un peu zélé notre politicien. Mais aux États-Unis, ça se fait bien, hein, ça fait partie du discours. Les Américains sont très proches de Dieu. Il est encore plus dans les années 70. Dans les années 70, près de 80% des Américains se disaient croyants, pratiquants. Pas rien que croyants, mais pratiquants également.
OK.
Donc, le lien qu'on avait avec le religieux dans les années 70 était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque également, toujours, si on se replonge à l'époque versus aujourd'hui, à l'époque, le film était sorti le 26 décembre 1973. On était juste après le congé de Noël. Donc, les gens venaient de passer plusieurs jours en famille à faire des échanges de cadeaux, à chanter des cantiques de Noël. Ils allaient à la messe, on rendait gloire à la naissance du Christ, on avait un angelot au sommet du sapin de Noël, on chantait des cantiques de Noël, on avait la petite crèche en dessous de l'arbre, et soudainement, immédiatement après cette période faste où on festoyait autour du divin, on arrive au cinéma et là, on voit le diable comme on l'a jamais vu. Donc déjà, là, le choc a été brutal. Le diable que l'on voit dans le film L'Exorciste de 1973, c'est également le diable qu'on s'attendait de voir. Hein, c'était la première fois qu'on le voyait de cette manière-là. Quand les gens allaient à la messe, quand les gens écoutaient les sermons des prêtres, des curés en chair qui brandissaient leur Bible, des pasteurs aux États-Unis, quand ils parlaient du diable, ben c'est celui-là, c'est celui qu'on voit dans l'exorcisme de qui on parlait. Et là, on le met en image. Il y avait également des choses qui étaient tout à fait choquantes. Il faut se rappeler que le rôle principal était tenu par Linda Blair, une fillette de 12 ans à l'époque. Les gens qui étaient dans la salle de cinéma, même si à un moment donné, il y avait une doublure hein, qui faisait la jeune fille possédée, mais n'en reste pas moins qu'on gardait toujours un peu comme en trame de fond, en filigrane, on gardait toujours cette image-là que la possédée demeurait une fillette de 12 ans. Et entendre dans la bouche d'une fillette de 12 ans des trucs comme « La chienne est à moi, Carasse, ta mère est en enfer où elle suce des queues, baise-moi, baise-moi !» Écoute, c'était des trucs qui étaient tout à fait épouvantables.
Ça se faisait pas, non, vraiment pas.
disais, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est une fillette de 12 ans. Comment elle peut dire des choses comme ça? Et à un point tel, d'ailleurs, on a appris par la suite, Linda Blair a confié que Fredkin, quand il avait fait le scénario, ben, il l'obligeait à dire des choses qui étaient absolument sans suite. Dans les faits, Linda Blair disait des trucs comme, le centre d'achat ouvre à 8 heures et les éléphants sont bleus. C'était ridicule, mais Fredkin avait calculé que le mouvement de la bouche permettrait de doubler, et dans le doublage, ça pourrait fonctionner avec ces fameuses phrases qui étaient tout à fait agressives.
OK, fait qu'il ne faisait pas dire directement.
Non, ça a été en doublage. Et évidemment, quand on regarde ça, on voit une fillette de 12 ans qui dit des obscénités tout à fait épouvantables. La scène de la masturbation avec le crucifix, elle est choquante.
Oui.
Dans certaines régions du monde, je pense notamment en Angleterre, on a censuré cette scène-là, on l'a raccourci pour pas la montrer. Dans certains États, c'était tellement choquant que le film était classé originalement pour l'âge de 16 ans et plus, mais dans certains États, on a monté l'âge à 18 ans et plus. C'était choquant. N'ayons pas peur des mots, c'était tout à fait choquant. On n'a rien de ça dans le film d'aujourd'hui. Non seulement le contexte religieux n'est plus le même, le diable, on n'a plus peur du diable, et il n'y a aucun propos de cette envergure-là qui sont tenus. Hein, c'est la langue qui semble... Puis, l'enfer, Dieu t'a joué des mauvais tours. Mais il n'y a pas ce discours-là obscène. Il est complètement absent. On l'a complètement éclipsé. Donc, déjà là, tout ça ne fonctionne pas bien. On a beau ramener Hélène Bernstein, on l'a entendu dans le bout de la bande-annonce que tu as fait entendre, on a même ressorti la musique de Tubular Bell, de Mike Oldfield, qui, faut le dire, n'avait pas été imaginée ou conçue en 73 pour le film L'Exorciste, mais qui a été récupérée pour le film L'Exorciste. Et aujourd'hui, dès qu'on entend cette sonorité, là, c'est ting, 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 on pense immédiatement à Exorciste, hein, ça l'a marqué l'imaginaire. Donc, tous ces éléments-là fait que 1973 était une époque, il y avait des éléments dans le film, au moment où le film sort, c'est déjà un contexte culturel, un contexte religieux, social, il y a des propos, des discours qui sont tenus dans le film, qu'on ne retrouve pas dans le film d'aujourd'hui. Et ensuite de ça, dans le film d'aujourd'hui, on a voulu trop jouer l'inclusivité et là, on est tombé littéralement dans le grotesque. Et ça, je t'en parle après la pause.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission avec les commentaires de Monsieur Christian Page concernant le dernier Exorciste Dévotion.
Oui.
Qui aurait le défaut de vouloir peut-être se mettre au goût du jour. Est-ce qu'on est en train trop de dénaturer un classique qui fonctionnait bien, en fait, par lui-même?
Je pense que c'était pas utile d'ailleurs. Hein, il faut le mentionner. Hein, au moment où le film était en préparation, le réalisateur, le monsieur Gordon Green, avait contacté William Fredkin, pour voir s'il voulait participer à cette suite du film original. Et évidemment, Fredkin s'est dit scandalisé par l'idée qu'on reprenne le film L'Exorciste. Et c'était amusant parce que Fredkin est décédé en août dernier et avant, il est mort subitement, donc il était pas malade au moment où il a donné une dernière entrevue où il parlait de cette histoire de remake de L'Exorciste ou de suite de L'Exorciste. Il avait laissé entendre, il dit, si éventuellement quelqu'un fait une suite à ce film-là, L'Exorciste, puis que je dois mourir, ben et je de l'au-delà, j'irai le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Ça te montre à quel point Fredkin était contre l'idée qu'on fasse une suite à L'Exorciste. Donc, bien sûr, il n'y a pas participé. Et William Peter Blassie est décédé il y a quelque temps, donc lui non plus n'a pas participé. D'ailleurs, il y a deux éléments que j'ai oublié de te mentionner qui ont contribué au succès du film de 73. Il faut se rappeler que le roman L'Exorciste, sorti en 1972, avait été écrit par un certain William Peter Blatty. C'était d'ailleurs le premier roman d'horreur de William Blatty.
Okay.
Et ce William Peter Blatty était également scénariste. Et c'est lui qui va scénariser le film de 1973. Donc, c'est pourquoi le film n'est pas dénaturé par rapport au roman. Moi, pour avoir vu le film de 73 et avoir lu le roman de William Peter Blatty, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont beaucoup plus marquants dans le roman que dans le film. Et le film, évidemment, on a un aiguillage. Le film doit durer 2 heures. pas plus. Donc, on doit tenir compte de ça. Donc, il y a des éléments qui ont été retirés, il y a des éléments qu'on aborde que de manière superficielle.
Des choses plus faciles à décrire dans un livre que d'avoir un visuel aussi.
Tout à fait raison. Et dans ce contexte-là, on comprend que quand même, le scénariste du film étant le même qui a écrit le roman, ben il a respecté sa propre trame de fond.
Il a gardé le crucifix, faut pas oublier.
Voilà, il a gardé ça. Et ce qui est intéressant aussi, il faut quand même retenir aussi que William Friedkin était un individu qui n'était pas croyant du tout. Alors que William Peter Blatty avait fait ses études dans des collèges et des universités à caractère religieux, hein, lui, il était très très croyant. Et souvent, lorsqu'on questionnait Friedkin au sujet de l'exorciste, lui, il disait, c'est amusant parce que quand on avait des réunions pour la préparation du film, il dit William Peter Blatty voulait un film et écrire un scénario pour parler de religion, et moi je voulais un film qui parle de société en fonction de notre regard sur la religion. Donc, on avait deux objectifs qui étaient différents. Et donc, ça a donné un parfait mélange. Et cela étant dit, hein, quand je te dis que l'autre élément qui a joué aussi en faveur du film à l'époque, c'est que ce fameux William Peter Blatty, qui avait écrit le roman, avait suivi son cursus d'étudiant et universitaire, s'était fait dans des collèges ou des écoles qui étaient d'obédience religieuse. Il avait notamment fréquenté l'université de Georgetown, qui était dirigée par des jésuites. Et au moment où il va lancer ça, c'est un peu comme une bombe, hein, au moment où on le questionne, il dit « Ah ouais, l'exorciste, le roman », et à un moment donné, un journaliste lui dit « Mais d'où vient cette idée-là? » Blatty dit, je l'ai pas entièrement inventé, alors que j'étais à l'université de Georgetown, un prêtre jésuite m'a raconté que l'un de ses collègues avait participé à un exorcisme en 1949, sauf que dans le cas présent, c'était un adolescent de 14 ans, ils n'ont pas une fillette de 12 ans, mais bon, et il dit, je me suis inspiré de cette histoire-là pour écrire le roman. Donc, cet élément-là, même si le film L'Exorciste n'a jamais été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie, il faut se rappeler que quand les gens 73 allaient voir le film au cinéma, tout le monde savait que le film était quelque part inspiré d'un événement réel. Et ça joue beaucoup parce que les gens se disent, s'il est basé sur une histoire vraie, ça veut dire que le diable existe, la possession existe. Donc cet élément-là va contribuer énormément au succès du film. Puis aussi, la façon de faire du cinéma en 1973 n'était pas la même qu'aujourd'hui. Je te donne à l'époque, les comédiens, les acteurs étaient un peu au service du réalisateur.
Ouais.
Et la façon dont Friedkin fait le film L'Exorciste, aujourd'hui, il serait condamné pour ça. Il irait en prison, là. Il arrivait sur le plateau, il tirait des coups de feu. Il n'y a rien qu'il faisait pas, là.
Mais non, pour faire obéir les acteurs.
Oui. Et à un moment donné, il y a une scène, dans le film, pour ceux qui se rappellent le film original de 1973, il y a une scène, à un moment donné, où Hélène Bernstein, qui joue Chris McNeil, donc la mère, elle est dans la chambre de sa fille. Et là, il y a une espèce d'interaction entre elle et sa fille possédée. Et à un moment donné, elle est poussée comme une force mystérieuse qui la pousse contre le mur. Or, on sait aujourd'hui que... Et là, évidemment, elle tombe sur le dos puis elle lâche un cri de douleur. Mais il n'y a rien de fake là-dedans parce qu'en réalité, ils ont pratiqué la scène à quelques reprises. Hélène Bernstein avait un harnais qui était relié à un système de câblage. Et quand elle était propulsée vers le mur, on tirait simplement le câble et le harnais. Et là, elle était tirée vers l'arrière. Et à son insu, au moment où on a tourné la scène, la bonne prise, comme on dit, Friedkin est allé voir les gens des effets spéciaux, il a dit, vous allez augmenter de 50% la puissance du tir. Donc, Hélène Bernstein, quand elle a été tirée par en arrière, elle a littéralement levé les bottines. Elle s'attendait pas du tout à ça. Aye. Et quand elle tombe sur le plancher, elle lâche un cri de douleur, elle s'était vraiment blessée au dos, dans cette scène-là. Donc, c'était l'époque, 73, c'était un peu la façon dont on tournait. Puis, Friedkin n'était pas le seul à tourner de cette façon-là, des réalisateurs célèbres, on pense à Alfred Hitchcock qui torturait littéralement ses acteurs lorsqu'il tournait des films, et plein d'autres ont fait la même chose. Mais bon, ça c'était l'époque. Aujourd'hui, ce qui fait que le film ne fonctionne pas, je l'ai mentionné, on n'a plus la même relation, les propos grossiers ont été retirés, donc il n'y a rien là-dedans qui soit choquant.
Okay.
Mais ce qui, moi, mais j'ai quand même été choqué, mais pas pour ces raisons-là. Ce qui m'a choqué, c'est aujourd'hui, au moment où on se parle, puis là, je vais pas me lancer dans un débat, mais on est dans une société où il y a toute cette idée de l'inclusivité, le wokisme et tout le reste qui fait débat. Et à un moment donné, tu dis, il faut mettre des balises. À un moment, trop, c'est trop. Et là, dans le film, pour essayer de faire visiblement par des soucis d'inclusivité, les deux personnes qui sont possédées, hein, c'est les deux préadolescentes, il y en a une qui est une afro-américaine et une autre qui est une caucasienne, donc une blanche. Donc, on a les deux pôles là, qui sont possédés. Et à un moment donné, dans cette objectivité, dans cette volonté d'inclusivité, on décide de faire appel parce que comme on a une jeune fille afro-américaine qui est possédée du diable, on veut essayer de, je sais pas, respecter le contexte culturel des Afro-Américains. Et là, tout d'un coup, on se met à introduire du vaudou. Ah. Et là, écoute, moi, je suis dans le cinéma et je suis atterré. Mais vraiment, là, complètement atterré de voir ça. D'abord, je comprends pas trop le lien. Hein. Au début du film, le couple en question se trouve, il se trouve en Haïti lorsque le fameux tremblement de terre, là, il y a une quinzaine d'années, qui s'est produit. Donc, le couple est là. La mère est enceinte de 8 mois et demi à peu près. Et elle est victime. Là, il y a une chute et, à cause des murs qui s'écroulent puis tout ça. Et là, on l'amène à l'hôpital. On est à Port-au-Prince et les médecins, malheureusement, ne peuvent pas sauver la mère, mais sauve l'enfant. Et c'est ce même enfant, 13 ans plus tard, qu'on retrouve aux États-Unis, qui va devenir possédé. Mais le lien avec Haïti, il est excessivement ténu, là. T'sais, elle est née en Haïti parce que sa mère est morte dans le tremblement de terre, mais bon, c'est un lien qui est assez ténu, là.
Okay.
Et là, tout d'un coup, on fait appel à des gens qui vont faire de la sorcellerie pour... de la sorcellerie, qui vont faire du voodoo, qu'ils vont incorporer au rituel de l'exorcisme. Et là, faut le dire, c'est franchement ridicule, c'est honteux, et je te dirais même que c'est insultant pour les gens qui sont d'obédience haïtienne. Moi, je comprends pas que les gens se soient pas soulevés davantage. Parce qu'il faut savoir que le vaudou, pour le commun des mortels, caucasiens, comme nous, blancs, occidentaux, le vaudou est très souvent associé à des trucs un peu malsains. Si vous visitez la Nouvelle-Orléans, c'est les poupées ouais. avec les pics, puis le baron samedi, hein, ce personnage qui est une espèce de squelette, là, bon, qu'on voit souvent dans des représentations de vaudou. Mais ça, là, c'est de la trappe négo, là. Ça, c'est pour vendre des cochonneries à des idiots comme nous. En réalité, là, le vaudou, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une religion qui peut être très lumineuse, hein. Les gens qui pratiquent le vaudou, c'est très, très lumineux. Mais comme dans toutes les religions, comme dans le christianisme, on a le satanisme, comme dans le, je sais pas, moi, si on prend d'autres religions un peu syncrétiques ou païennes, comme par exemple la Santeria, on a le Palo Mayombe, qui est la version noire, et bien sûr, le voodoo aussi a sa version noire. Quand les sorciers, appelons-les comme ça, là, j'utilise pas le terme sorcier de manière péjorative, là, mais les sorciers qui pratiquent le voodoo, quand ils font de la bonne magie, ce qu'on pourrait appeler de la magie blanche, ces sorciers-là se donnent le titre de Ougan. Ils s'appellent des hommes ou des femmes. Ce sont des Ougans. Et s'ils pratiquent la mauvaise magie, la magie noire, là, ils deviennent des Bokors. Donc, on a les deux facettes de cette religion-là. Mais la religion elle-même, le vaudou, c'est une religion qui est très lumineuse. Puis, il faut connaître un peu de la façon dont ça s'est produit. C'est tellement éloigné du christianisme. C'est inimaginable qu'on puisse associer les deux choses ensemble. C'est vraiment invraisemblable. Le vaudou... La façon dont il est né et pourquoi on retrouve dans le vaudou des figures religieuses, si tu assistes, et moi je le sais parce que j'y suis allé en Haïti, j'ai eu la chance de participer à des cérémonies vaudou, participer comme témoin, là, j'étais
ouais,
là, j'ai
assisté.
Vu comment ça se passait, assister, on a filmé ça pour des documentaires, donc j'ai une connaissance intimiste de ce qui se passe. Et dans le vaudou, il faut savoir que quand les bateaux, les négriers sont arrivés en Amérique transportant les esclaves africains, ces gens-là ramenaient avec eux une culture, une religion avec lesquelles ils étaient enracinés dans les pays africains. Ces gens-là sont arrivés en Amérique. Et en Amérique, non seulement on en a fait des esclaves, mais on a voulu aussi les convertir. Et c'était difficile pour eux puisqu'ils avaient toutes sortes de dieux, toutes sortes de divinités, toutes sortes de rituels. Et là, on leur imposait le christianisme. Ces gens-là n'étaient pas des imbéciles. Ils ont vite compris que quand ils essayaient de pratiquer leur rituel propre, qui était considéré comme une religion païenne, ces gens-là étaient châtiés. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben, on va être plus intelligents qu'eux autres. Ils ont transféré les personnalités de leur divinité dans nos représentations religieuses. Alors, tant et si bien que lorsqu'on assistait à un rituel de vaudou, ben, par exemple, la statue de Saint-Joseph devenait Papa Loco. La statue de la Sainte Vierge devenait Erzouli. Ça, c'était leurs dieux africains, mais ils ont récupéré des figures religieuses catholiques, justement pour éviter. Fait que là, quand les maîtres entraient dans les casbahs où se trouvaient les esclaves et les voyaient danser autour d'une figurine de Saint-Joseph, on se disait, ben voilà, on a réussi, on les a convertis. Mais en réalité, quand ils dansaient autour de Saint-Joseph, ils dansaient autour de Papa Loco. Hein, leur divinité.
Okay.
Et dans la religion vaudou, il y a plus de 400 divinités. Et lorsqu'il y a une cérémonie, les gens vont dresser au centre, lorsqu'ils se réunissent dans une cabane, là, on choisit une maison où on va se réunir pour faire le rituel vaudou, cette cabane-là, cette maison-là, va s'appeler le Amphour. Et on va dresser au milieu de cette maison un poteau, qu'on appelle le poteau mitant d'ailleurs, poteau mitant, et autour du poteau mitant, les officiants vont dessiner des figurines sur le sol. Quand tu regardes des rituels vaudous, tu vois souvent ces figurines faites à la craie blanche, on les appelle les VV. Et les VV, c'est la porte d'entrée des esprits pour qu'ils entrent dans notre monde, et à ce moment-là, ils vont posséder certains membres du rituel, mais pas posséder dans le sens qu'on entend la possession diabolique.
C'est pas malveillant.
Non, ils vont les habiter. Et d'ailleurs, dans le langage des cérémonies vaudou, on ne dit pas qu'un officiant, il est possédé. On dit il est chevauché par un loa. Hein, les loas, ce sont ces esprits. Et les loas, ce sont les esprits qui vont amener le message aux grandes divinités, hein, Dambala, Papa Loco, Erzouli. Donc, c'est ces divinités qui sont des trans. En fait, ce sont les facteurs, ceux qui prennent la lettre puis qui vont la porter aux dieux. Ça là, mais strictement là, vraiment là, strictement rien à voir avec l'idée qu'on se fait du rituel, de l'exorcisme, le diable. Il y a pas dans le vaudou, il y a pas de figure de diable. Il n'existe pas ce diable-là. Quand on pratique le mauvais vaudou, quand le Bokor fait la mauvaise magie, il va incanter les mêmes dieux que lorsque on fait de la bonne magie. Hein, En fait, on implore les mêmes dieux, c'est simplement l'objectif qui est visé. Donc, et rien à voir avec ce qu'on retrouve dans le catholicisme. Et là, tout d'un coup, dans le film L'Exorciste, je vois, soudainement, on met les deux filles, l'afro-américaine et la caucasienne, dos à dos, et là, on fait appel à un Ougan, qui est une femme de cette culture-là vaudou, et là, on la voit commencer à faire des VV, des dessins sur le sol, autour des deux jeunes possédés, comme si le fait que les deux jeunes filles étaient liées l'une à l'autre formait un peu le poteau mitant. Mais tu dis, mais c'est d'un ridicule. Ça, c'était franchement là. C'était à se bidonner. Littéralement, c'était à se bidonner tellement que ça devenait ridicule. Et ça, c'est ce qui m'a agacé. J'avoue que ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que non seulement c'est absurde, mais ensuite de ça, ça donne encore une fois cette idée. Cette idée que nous qui ne connaissons absolument rien, hein, les Occidentaux qui connaissent absolument rien au voodoo, on a souvent tendance à vouloir dépeindre cette religion comme étant quelque chose de malveillant. Et c'est encore ce qu'on retrouve là-dedans. On nous dit le message, c'est regardez là, on va faire du voodoo, puis il y a deux jeunes filles qui sont possédées parce que le voodoo c'est mauvais, parce que le voodoo c'est le diable. Alors que c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment une autre culture, une autre religion, une autre compréhension du monde de l'au-delà qui n'a rien à voir avec la vision religieuse qu'on s'en fait. Et ça m'a particulièrement agressé, cette récupération, j'allais dire éhontée, même vicieuse du vaudou dans ce film-là.
C'est un peu ça aussi de l'appropriation culturelle, dans le sens qu'on prend un concept, là on a voulu bien faire dans ce cas-ci, mais par faute de connaissance, ben ça devient une insulte.
Je pense que oui. J'aurais tendance à dire, je suis pas trop défendant de cette appropriation culturelle.
C'est ça. Bon, non,
je pense
plus,
que,
mais...
que la culture, c'est la culture. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il soit. À un moment donné, il faut pas exagérer non plus. Tu sais, je pense pas qu'on va engager des mafieux pour jouer des mafieux dans le cinéma.
Non, non, c'est pour moi une culture, ça se partage. Mais là, on l'a carrément scrappé faute de connaissances
et
de recherche.
Et c'est là, t'as tout à fait raison. C'est pas le fait qu'on ait décidé de s'approprier le vaudou, c'est qu'on l'a fait de la mauvaise façon. On l'a pas fait en respectant ce qu'est réellement le voodoo. Et encore une fois, les gens qui ont vu ce film-là, ben, vont sortir du cinéma. Les gens qui ne connaissent rien au voodoo vont sortir du cinéma en se disant, ah, le voodoo, hein, c'est mauvais, c'est méchant, c'est pas bon. Alors que c'est une religion qui peut être tout à fait lumineuse. Comme n'importe quelle religion, il y a toujours des beaux messages dans la religion. Mmh. Hein. Si on exclut, là, la façon de, comment je pourrais dire, que l'institution va récupérer la religion, tu sais, dans les messages religieux, tu sais, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, aime ton prochain, tu sais, je veux dire, il y a des beaux messages, c'est lumineux. Maintenant, ce que l'on en fait, c'est une autre paire de manches, tu sais. Et c'est ça. Donc, le vaudou, ça peut être excessivement lumineux, hein, dans le discours, dans la façon de faire. Mais malheureusement, on nous présente ça encore une vision excessivement occidentale, une vision très, je vais être méchant, mais une vision très blanche de ce qu'est le voodoo. Et c'est pas ça la réalité.
On doit se garder une petite réserve si on va voir ce film-là dans les prochaines semaines. C'est toujours à l'affiche. Alors, ta note globale sur 10, si on avait à faire une vraie critique dans la presse.
Ma note globale du film, c'est un 3 pour moi.
Ooh!
Ça reste pour un public jeune. Ça reste un film d'horreur qui s'inscrit dans les paranormales activités, d'autres films du même genre. Là, tu sais, c'est un film d'horreur, mais à mon avis, ou Insidious. Je sais pas si tu connais la saga des films Insidious.
Ben,
là.
Si tu donnes 3 à Insidious, honnêtement, je suis un peu triste parce que c'est mes préférés.
mais tu comprends ce que je veux dire quand je dis des films un peu saucisses qu'on fait comme ça. Bon, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, on récupère les mêmes scénarios. Bon, c'est un peu à ça. Quoi,
c'est un moule. Ça.
Mais voilà, pourquoi moi je donne 3, justement parce que j'ai été choqué par cette récupération qu'on a fait du voodoo. Une religion que, pour avoir assisté à des rituels comme cela, j'ai vu les gens comment ils le vivent. Ils vivent leur religion, ils vivent leur culture, leur racine. Ça, j'ai trouvé ça excessivement déplaisant. Donc, voilà pourquoi je donne seulement une note de 3.
Parfait. D'ici là, ben, ça peut être aussi vu comme un divertissement. Faites-vous votre propre idée. On est dans la période pour faire des marathons autour d'une doudou ou encore de se clencher un bon popcorn de cinéma pour se faire peur. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, on avait justement des marathons, 3 films de suite au cinéma pour l'Halloween, puis ça crée des bons souvenirs.